Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le saviez-vous, dans notre beau sud-ouest, un nouveau lieu de pèlerinage pourrait être en train de voir le jour à Cahors, cette ville d'art et d'histoire, lovée dans un méandre du Lot, entourée de collines escarpées et des hauteurs arides des Causses, au cœur de sa cathédrale Saint-Étienne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques, se trouve la Sainte Coiffe, un linge qui aurait rien moins que couvert la tête de Jésus-Christ une fois mis au tombeau. Un linge exposé à la vénération des fidèles au long d'une année jubilaire et qui a déjà attiré l'équivalent de la ville, ou presque. Cahors, à l'heure de la Sainte Coiffe, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en direct des studios de Cahors, voilà, puisque notre radio régionale a de multiples antennes. Très heureux d'être parmi vous dans le Lot. Autour du plateau, il y a du monde. Allez, honneur aux dames. Marie-Madeleine Ré, vous êtes membre de la commission diocésaine d'art sacré. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Marie Kawadek, vous êtes responsable de la garde d'honneur de la Sainte Coiffe. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Nathalie Heller, vous êtes coordinatrice des équipes du parcours jubilaire.
Bonjour Emmanuel.
Monseigneur Laurent Camiade, vous êtes donc évêque du diocèse de Cahors. Bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, Sylvain Gignier, directeur de Quercy Découverte et surtout coordinateur général du 900e anniversaire de la cathédrale de Cahors. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, il y a des voix qui sentent le sud-ouest quand même. Hein. On va dire celle de Sylvain Gignier ne trompe pas. Donc ce grand jubilé que vous avez vécu, qui n'est pas encore fini, qui va se finir donc les 6, 7 et 8 décembre prochains, à l'occasion d'un grand tridium, qui se sont ouverts donc au début mars, le 5 mars dernier, et donc qui vont se clôturer à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception. Ça a été un grand événement dans la région, il y a du monde qui est passé, on va en reparler. Près de 30 000 personnes. Alors, je disais presque la ville de Cahors parce que j'ai vu que ça dépend si on compte la ville ou l'agglomération. Je voudrais, vous allez nous aider à faire, on va dire, de la pédagogie pour donner envie à tous ceux qui ne sont pas encore venus de vous rejoindre pour la clôture de ces festivités, ou pour ceux qui ne pourront pas de venir plus tard, puisque comme je le disais en introduction, Cahors est peut-être en train de devenir un des grands lieux de pèlerinage, voilà, ou de tourisme religieux, on le verra, de la région. La Sainte Coiffe, commençons par ça. 20 minutes, c'était un article de mai dernier. Mais qu'est-ce que la Sainte Coiffe, ce bonnet qui attire des milliers de pèlerins, titré ce journal connu du grand public? Je vous propose qu'on commence par ça. Marie-Madeleine Ré, avec vous, est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire ce linge, donc, ou ce bonnet pour 20 minutes? Décrivez-nous ce linge, à quoi ressemble-t-il?
Alors, c'est un linge donc qui a la forme d'une tête, de la tête, qui entourait la tête du Christ, et qui était fermé sous le menton par une petite bandelette qu'on appelle une mentonnière, et qui était retenue par deux boutons de tissu de part et d'autre. Donc c'est un linge qui se compose de 8 couches de tissus divers. Il y a de la soie, il y a du coton et il y a du lin, pardon. Voilà. Ce linge donc est un peu grisâtre, il n'est pas blanc, il est un peu grisâtre puisque il a été imprégné des aromates lors de l'embaumement du corps.
Alors, est-ce qu'il y a des traces de sang sur ce linge?
Alors il y a quelques taches de sang, oui, il y a quelques taches de sang donc au niveau du sommet de la tête, quelques gouttes de sang. Et ensuite, sur le côté droit, sur la joue droite, qui aurait peut-être été dû au flagellement.
Alors j'ai vu aussi que, en tout cas, certains articles faisaient des parallèles avec le suaire de Turin, laissant entendre, entre autres, que sur le suaire de Turin, il y avait une partie du suaire, justement, qui n'était pas tachée, laissant entendre, donc la partie, justement, sur la tête, laissant entendre qu'il y aurait, justement, eu un linge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, peut-être ce parallèle?
Un linge protecteur qui était la Sainte Coiffe. Donc la Sainte Coiffe touchait le corps, touchait la tête. Et ensuite, donc, le suaire lui-même, c'est-à-dire le linge qui enveloppait le corps, était lui-même, donc il touchait le corps évidemment, et était entouré de bandelettes. pour bien serrer le corps, que l'air n'atteigne pas les chairs.
Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà. C'était semble-t-il une tradition aussi?
C'était la tradition juive de l'époque.
D'ensevelir comme ça,
voilà, d'ensevelir.
Avec de multiples linges parce que...
Voilà, oui. Mais le corps étant embaumé, les linges s'imprégnaient des aromates. Donc ils ont changé de couleur au cours des siècles.
Alors, Monseigneur qui est ici représenté, Monseigneur Laurent Camilla, donc évêque de Cahors, on lui donnera la parole un tout petit peu après. Marie-Madeleine va rester avec vous, juste disait qu'aujourd'hui la raison scientifique est une des expressions les plus puissantes de notre quête de vérité, laissant entendre qu'il ne faut pas passer à côté. J'ai cru comprendre qu'il y avait des études en cours pour dire l'authenticité de cette relique. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire à tous les pèlerins qui se sont pressés ici ou autres curieux, quid de l'authenticité de cette relique?
Alors, il est vrai que pour les chrétiens, l'authenticité, la véracité, la preuve, si vous voulez, scientifique, d'abord, n'est pas faite. Et ensuite, je dirais, on n'a pas besoin de cela pour croire. Ce qui est important pour un chrétien, c'est le signe que ce linge nous donne. C'est le signe de la résurrection du Christ. Ce linge est vide.
Et alors ça, justement,
Saint Jean l'a vu vide.
On laissera Monseigneur nous parler de foi, mais
donc sur le plan, scientifique, oui, il y a eu un prélèvement.
Après le jubilé,
voilà.
Il y aurait des.
Il y a eu un prélèvement qui a été fait, mais très ténu, de quelques millimètres. Mais je n'en connais pas le résultat. Je ne sais pas s'il y a eu un résultat.
Le résultat
pour l'instant,
est à venir.
Voilà.
On va parler de l'histoire aussi de cette relique, parce qu'une autre manière d'authentifier, bien souvent, c'est comme les évangiles, hein, c'est de voir aussi les sources concordantes, les témoignages. On y viendra après, juste, Monseigneur. Donc vous disiez dans un petit mot d'introduction donc, de ce jubilé intitulé « Il vit et il crut ». La tradition de la vénération des reliques avant l'époque moderne ne s'est pas appuyée sur une forme scientifique de la vérité, mais vous avez rajouté aujourd'hui que c'est important. Dans quel état d'esprit avez-vous proposé donc à la vénération des fidèles ou à la curiosité des badauds cette relique ou cette supposée relique?
Mon état d'esprit, c'est d'abord de prendre en compte une tradition. Là, on fête les 900 ans de la cathédrale et cet événement recouvre quand même plusieurs siècles au cours desquels on est sûr que de nombreux fidèles ou pas fidèles d'ailleurs sont venus soit par curiosité, soit par vraiment dévotion contempler, regarder, vénérer en fait cet objet et faire le lien avec ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc c'est cette tradition de foi, cette tradition de quête spirituelle qui me paraît respectable, profondément respectable et que j'ai voulu rendre à nouveau possible et puis ensuite et aussi commémorer à travers l'événement des 900 ans. En fait j'ai voulu dans la continuité avec ce que voulaient mes prédécesseurs parce que on m'a dit que déjà Monseigneur Guédon souhaitait que la Sainte Coiffe soit remise dans la cathédrale. Monseigneur Turini l'avait demandé aussi, donc mes deux prédécesseurs immédiats.
Et vous avez eu d'autres, vous pouvez peut-être les citer.
Étaient dans ce projet.
D'autres illustres prédécesseurs, alors, dont Alain de Solminiac, dont on fêtait
récemment. Le bienheureux Alain de Solminiac, nous avons fêté le jubilé de son ordination les 400 ans l'année dernière, mais donc on s'est rappelé justement qu'il avait fait organiser des processions de la Sainte Coiffe. Mais enfin, je crois que beaucoup d'évêques, il faut citer aussi plus récemment Mgr Grimardias, puisque c'est lui qui avait fait faire commander le reliquaire et la chapelle d'Axe qui va abriter à nouveau la Sainte Coiffe, et puis donc à la fin du 19e, et à cheval sur le 19e et le 20e, Mgr Reynard, puisque c'est lui qui avait scellé la Sainte Coiffe dans le reliquaire, quand nous avons pu ouvrir pour faire les études dont on attend les résultats, eh bien on a retrouvé le sceau de Mgr Reynard. Voilà, donc il y a eu plusieurs évêques qui se sont intéressés à la Sainte Coiffe.
Donc deux multiples évêques. Juste quand vous titrez « Il vit et il creut », c'est évidemment un passage de l'évangile selon saint Jean. Qu'est-ce que vous suggérez comme attitude justement aux pèlerins et aux badauds par cette invitation « Il vit et il creut » Est-ce que vous pouvez l'expliciter?
Alors cette invitation, en fait, c'est d'abord la référence à l'évangile. C'est saint Jean qui, en entrant dans le tombeau, voit effectivement les linges de la Passion, les linges qu'ont recouvert le Christ pendant son ensevelissement, déposés donc sur le et restant là vide. Et c'est ce signe, parce que évidemment, il n'a pas vu le Christ ressuscité, il a vu des linges. Et donc nous pouvons aussi regarder ce linge et nous sommes invités à croire comme l'a fait Saint Jean. Voilà. Mais bien sûr, il n'a pas eu de preuve, il a posé un acte de foi, ce que chacun est invité librement à faire. Et c'est cette même démarche quoi, de s'appuyer sur un signe. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de visuel, on a besoin aussi de réel. On est beaucoup dans le virtuel souvent, on voit beaucoup d'images. Et voir un objet, c'est très important. Les gens sont attachés aussi à des souvenirs, des choses qui les rattachent à leurs ancêtres, à des personnes aussi qui les ont quittés. Ou à des personnes qui sont éloignées, on s'attache. Alors il ne faut pas faire du fétichisme, il ne s'agit pas d'adorer des objets, mais il ne s'agit pas de croire qu'il y a un pouvoir magique de ces objets, mais ils nous aident à évoquer des réalités qui s'appuient sur des objets concrets que nous pouvons toucher, sentir, voir, et à partir des sens, nous pouvons poser un acte de foi qui nous fait passer à un autre niveau. Voilà, on s'aperçoit que beaucoup de gens vivent cela.
Voilà, dans votre mot aussi, vous dites que ça peut être une mise en contact avec le mystère de la résurrection. Et Dieu sait si aujourd'hui, ça a toujours été une bonne nouvelle. Mais en tout cas, c'est une nouvelle parfois de plus en plus surprenante pour nos contemporains. Marie-Madeleine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de cette relique? Parce que c'est une manière aussi de l'authentifier. Il y a, semble-t-il, deux traditions. L'une qui attribue sa venue à Charlemagne et l'autre à un évêque de Cahors, Géraud de Cardaillac. Tout ça, c'est, on va dire, c'est de la ritournelle pour vous, mais pensez à tous ceux qui sont loin, qui ne sont pas encore venus.
Oui, alors il est maintenant admis que Charlemagne n'a rien à voir là-dedans, donc on va l'oublier très vite. Par contre, ce qui est admis dans l'état actuel de nos connaissances, c'est que l'évêque du temps, l'évêque de Cahors, de l'époque, est parti à la première croisade à la suite de Godefroy de Bouillon et en a ramené et revenu à Cahors porteur de la Sainte Coiffe. Comment l'a-t-il eu? Ça, c'est plutôt mystérieux. Est-ce à Jérusalem? Est-ce à Constantinople en passant? Personne ne le sait. Voilà. Donc, à partir de là, il a fait construire la cathédrale. C'est pour ça que la cathédrale a été consacrée quelques années après, enfin l'autel de la cathédrale, le chœur étant terminé mais pas le reste de la cathédrale, en 1119. Voilà.
Il y a, semble-t-il, autre chose qui authentifie, c'est la consécration de l'autel, donc par...
L'autel, alors, par le pape Calixte II, qui se trouvait à Toulouse pour un concile et qui est venu à Cahors pour consacrer l'autel majeur de la cathédrale, mais aussi l'autel de la Sainte Coiffe. Donc voilà. Il y avait deux autels.
Donc on peut imaginer que si le pape lui-même se déplace, c'est que quand même c'était une relique plus que supposée. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Marie-Madeleine Rey, qu'il faut avoir en tête et qui de l'histoire de cette Sainte Coiffe, et on pourrait en faire des émissions et des émissions, vous en avez faire certainement fait ici à Radio Présence à Cahors, qui est important d'avoir en tête et qui contribue à authentifier ce linge?
Alors cette Sainte Coiffe a eu quelques péripéties. Surtout lors des guerres de religion. Elle était enserrée donc dans un reliquaire qu'un des soldats huguenots a voulu voler. Il a bien volé le reliquaire, mais il a jeté le linge, ce chiffon, entre guillemets, qu'il trouvait inutile. Mais miracle, il l'a jeté devant une sainte femme, on peut dire, qui balayait devant sa porte et qui savait ce que c'était. Donc, elle n'était pas si sainte que ça, la pauvre femme, puisque elle est quand même allée négocier ce linge. Je passe les détails parce que ça serait beaucoup trop long. Elle est allée négocier ce linge contre deux sacs de blé. Et finalement, ce linge s'est retrouvé entre les mains de catholiques, en particulier le seigneur d'Andine, qui l'a sauvé, qui était prisonnier, lui, mais qui s'est échappé, et qui a pu la sauver, l'a amenée d'abord à Siorac, dans la banlieue de Cahors, puis l'a ramenée à Luzèche, et quand les temps se sont apaisés, l'a ramenée à Cahors. Voilà.
Voilà, longue histoire de la relique avec de multiples péripéties. Monseigneur Camiat, avant qu'on fasse une première pause, j'aimerais qu'on dise quelques mots de l'encouragement du pape que le pape François a eu à votre égard et puis à l'égard de tous les fidèles et puis aussi de tous les pouvoirs publics, de toutes les personnes investies, on y reviendra. Je ne peux pas citer l'ensemble du message, alors il n'est pas signé directement du pape François, mais du cardinal Pietro Parolin, qui est secrétaire d'État, du Saint-Siège. Sa sainteté, le pape François, s'associe à la joie et à la prière des fidèles et des pèlerins qui participeront à ce jubilé. Voilà, laissant entendre que c'est une occasion d'ouvrir le cœur de tous ces pèlerins à la personne ou à la présence de Jésus, à cette foi en Jésus. Le pape bénit et encourage la vénération de la Sainte Coiffe. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cet encouragement et peut-être de... Alors vous me direz, là c'est un peu la question piège, mais de l'indulgence qui est liée à ce jubilé et à cette vénération.
Eh bien, tout simplement, quand on vit dans un diocèse un événement important, comme c'est le cas pour ce jubilé, il est bon d'écrire au pape pour lui en faire part, pour lui recommander à ses prières. Donc, il a eu la bonté de nous faire adresser ce message, et donc c'était évidemment un encouragement. Donc,
c'est important pour vous,
ou c'est, oui, bien sûr.
C'était facultatif.
Ce n'est pas facultatif parce que l'Église est une, donc c'est aussi ça manifeste cette communion de l'Église. Un évêque n'agit pas seul. J'ai cité mes prédécesseurs qui ont agi. J'avais aussi invité des évêques, bon, tous n'ont pas pu venir, mais il y avait au moins un qui est venu voisin à l'occasion de la procession de la Sainte Coiffe. Mais en tout cas, avec les évêques de la province, nous en avons parlé. Enfin, voilà, nous partageons toujours ce que nous vivons, et c'est l'Église qui vit quelque chose. C'est pas simplement l'évêque de Cahors avec son petit troupeau. C'est quelque chose qui est plus large, quoi. Et donc surtout quand il s'agit évidemment d'une relique christique, on est face à quelque chose dont nous sommes dépositaires, mais qui ne nous appartient pas.
Quid de l'indulgence?
L'indulgence,
sacré défi d'essayer d'expliquer ça en 2 minutes.
Oui, c'est ça. C'est un usage qui est parfois qui a pu être dévoyé à certains moments parce que on voulait comptabiliser les jours de purgatoire en moins qu'on obtenait en fonction des efforts en plus que l'on faisait. Donc ça, c'est une espèce de commerce qui n'est pas juste. Par contre, il y a une tradition juste qui consiste à se dire que l'Église, justement, qui est plus large que nous, qui est aussi enrichie de toutes les grâces accumulées par la prière des saints, par tout ce qu'ils ont offert avec le Christ dans leur vie, eh bien, peut dispenser des grâces supplémentaires pour nous aider à réparer le mal que nous commettons et les conséquences de nos péchés. Voilà, donc dans la communion des saints, en recommandant certains actes, certains gestes, comme par exemple aller vénérer la Sainte Coiffe, puis il y a quand même des conditions assez précises, se confesser, communier, eh bien, on obtient ainsi une forme de... disons, de réparation plus complète des conséquences de nos péchés.
On va faire une première pause, et en tout cas pour ceux qui devraient nous quitter maintenant, n'hésitez pas à venir à Cahors pour vénérer cette relique, ou si vous n'en êtes pas là, pour venir en curieux. Vous serez accueillis avec générosité et avec cœur les 6, 7, 8 décembre prochains, à l'occasion du tridium de clôture donc de cette année jubilaire des 900 ans de la cathédrale de Cahors. Je finis cette première partie en relisant cette invitation du pape François, ou cette bénédiction. Le pape bénit et encourage la vénération de la Sainte Coiffe, relique de la passion du Christ et signe de sa résurrection. On fait une première pause musicale et on vous retrouve.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cahors à l'heure de la Sainte Coiffe, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin en direct depuis nos studios donc de Cahors ce matin, accueillis par tout le monde, en tout cas par les chrétiens de ce diocèse. Et on les remercie autour du plateau, Mgr Laurent Camiade, évêque du diocèse de Cahors, Sylvain Gignier, coordinateur général du 900e anniversaire de la cathédrale de Cahors, Marie-Madeleine Ré, membre de la commission diocésaine d'art sacré, Marika Wedek, responsable de la garde d'honneur de la Sainte Coiffe. On découvrira ça à la fin de l'émission, et Nathalie Heller, coordinatrice des équipes, entre autres, du parcours jubilaire. Ça a donc été un long et grand et beau jubilé, m'a-t-on dit, et puis en lisant et en suivant un petit peu ce qui était publié dans la presse. Charge à vous donc, Sylvain Gignier et Mgr Laurent Camiade, de partager aux auditeurs un peu partout dans la région ce qui a été vécu au long de cette année. Sylvain Gignier, vous étiez le coordinateur général. Est-ce que vous pouvez commencer tout simplement par nous raconter, vous le faisiez en préparant juste avant l'émission, la manière dont s'est ouvert ce jubilé qui dit combien ce jubilé comptait emmener large, et c'est un jubilé qui ne concernait pas que l'Église. Racontez-nous cette histoire de coffre.
Alors, tout à fait, puisqu'en fait, dans le cas du 900e anniversaire de la cathédrale, en fait, pour que cet anniversaire soit une vraie réussite, on est parti du postulat que la cathédrale est propriété de l'État, dont elle a un affectataire qui est l'Église. Elle se trouve dans une cité qui est Cahors, avec beaucoup de personnes qui tournent autour. Donc, du coup, pour réaliser ce 900e de façon, on va dire, la plus large possible, la plus fédératrice possible, eh bien, on a ouvert le 5 mars dernier le coffre du 900e anniversaire. C'est-à-dire qu'on avait un coffre qui ne pouvait s'ouvrir qu'avec quatre clés. Une clé qui était possession de l'Église, une clé possession de l'État, une clé possession de la ville et une clé possession de la société civile. Et le 5 mars, pour ouvrir ça.
La société civile, juste, c'est...
Alors, société civile, c'est vous, c'est moi, les associations, voilà, tous ceux qui participent à la vie cadurcienne. Et du coup, le 5 mars, eh bien, toutes les clés se sont réunies dans la cathédrale Saint-Étienne et ont ouvert le coffre du 900e au son des cors de chasse, qui est l'instrument des ouvertures de jubilé. Et ça a été le début d'un long périple qui dure jusqu'à encore aujourd'hui et qui se terminera donc le 8 décembre.
Et vous me disiez que la cathédrale était pleine à cette occasion, c'est ça ?
Voilà, ben, le jour de l'ouverture du 900e, l'ouverture du coffre, eh bien, 800 personnes étaient présentes, donc on ne peut pas en avoir eu plus puisque c'est la capacité de la cathédrale. Et c'était vraiment un événement très festif et fédérateur, ce qui a ainsi ouvert le champ à ces manifestations qui ont jalonné la vie cadurcienne pendant ces 9 mois.
Alors, vous êtes là donc pour représenter un petit peu, à vous tout seul, lourd de charge, hein, un petit peu toutes les personnes impliquées, parce qu'on ne pouvait pas inviter tout le monde autour du plateau. J'aimerais juste que vous commenciez cette partie un peu en nous parlant avec votre cœur. Je ne sais pas si vous êtes un enfant du pays, mais en tout cas, vous êtes directeur de Quercy Découverte, m'a-t-on dit, donc entreprise qui accompagne les touristes et peut-être autres pèlerins qui veulent aller se promener sur le Lot, c'est bien ça, hein?
Oui, tout à fait, avec l'entreprise. Donc, on a le petit train de Cahors qui fait visiter la ville, les bateaux de croisière autour de Cahors, une agence qui fait venir des touristes à Cahors pour différentes raisons, dont le tourisme spirituel.
Alors, je lisais dans Géo, rien que cela, en tout cas sur geo.fr, la chose suivante, en parlant de la cité médiévale de Cahors, avec un peu d'imagination, on pourrait se croire à Istanbul en train d'admirer la Sainte Sophie de Constantinople. Dites-nous combien Cahors est une belle ville et combien vous êtes fiers aussi, et peut-être de ce jubilé qui vient de se passer.
Alors, Cahors est une belle ville pour moi, bien sûr, c'est pas très objectif, hein, puisque bien évidemment, étant passionné par ma ville et son patrimoine, c'est quand même une ville qui a 2000 ans d'histoire, hein, qui compte deux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques, la cathédrale Saint-Étienne donc et le pont Valentré. Et c'est une ville dans laquelle on peut se perdre au cœur des ruelles médiévales et tomber au détour d'une d'elles sur cette cathédrale magnifique, donc il y a 900 ans on le disait, mais surmontée de deux coupoles d'inspiration byzantine, même si elles font partie de l'art roman du sud-ouest de la France.
D'où le parallèle de Géo, voilà.
Tout à fait. Et donc du coup, et dont à l'intérieur d'ailleurs, quand on rentre, on peut se perdre à travers le cloître, la cour de l'archidiaconée. C'est un complexe en fait, ce n'est pas qu'une cathédrale, c'est un ensemble cathédral. Et également, ce qui est très beau à voir, c'est l'intérieur avec notamment les coupoles l'intérieur, une qui est peinte avec des peintures du XIVe siècle qui représentent la lapidation de Saint-Étienne. Et preuve de sa qualité, elle est quand même présente au musée de l'architecture nationale au Trocadéro face à la cathédrale. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on avait fait la conférence de presse nationale d'ouverture du 900e sous la coupole de la cathédrale face à la tour Eiffel, quand même tout un symbole.
Sous la coupole de la cathédrale, vous voulez dire ?
Qui a été refaite à taille identique.
Ah oui, d'accord, puisqu'elle est au musée du Trocadéro, voilà, en face de la tour Eiffel.
Tout à fait.
Voilà, pour ceux qui ne sont jamais allés à Paris, ça fait beaucoup de voyages, mais commencez en tout cas par Cahors, hein, avant de monter à la capitale.
Bien
Sylvain
sûr.
Gignet, puisque vous avez la parole, parlez-nous de ce pèlerinage fluvial qui a eu lieu le 15 août dernier. C'est une tradition qui se... Enfin, je sais pas si c'est une tradition, c'est une réalité qui se développe de plus en plus en France. À Paris, justement, il y a un pèlerinage fluvial aussi, autour du 15 août. Vous étiez de la partie, puisque c'est sur l'un de vos bateaux, je crois, que la Vierge a processionné. Racontez-nous cette fête et ce temps fort du jubilé.
Alors, justement, cette procession est assez symbolique du partage qui a été fait entre les différentes clés du 900e anniversaire, puisque à la demande de Monseigneur, eh bien, et la volonté de créer une procession fluviale autour de Cahors, et eh bien, j'ai mis à disposition des bateaux pour pouvoir accueillir notamment les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer le long du Lot pour suivre la procession de la Vierge qui était sur un autre bateau.
Donc, les personnes à mobilité réduite, comme on dit dans le jargon.
Tout voilà. À fait, qui étaient donc à bord d'un de mes bateaux. Et justement, c'était très important puisque la rivière, moi qui me tient à cœur, coule au cœur de la ville depuis l'origine et même à l'origine de la ville. Et c'est un petit peu le lien de Cahors et de sa prospérité. De faire le lien entre la cathédrale qui est le centre spirituel de Cahors et la rivière qui est le centre économique et de nature de Cahors. Voilà, c'était très joli comme projet. Et c'est vrai que moi, personnellement, de voir autant de monde au bord de cette rivière et marcher le long de Lot, voilà, c'était quand même un moment assez exceptionnel. Après, sur le volet spirituel, je laisse bien sûr Monseigneur développer.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous interroger sur les indulgences plénières. Monseigneur Lancamiade, puisqu'il vous a passé le ballon ovale, sur les temps forts. Alors, on ne peut pas parler de tous les temps forts, on en redonne peut-être quelques-uns, plus grand public. J'aimerais que vous nous parliez, ou moins, du 27 avril dernier. Le 27 avril dernier, il y a eu donc une grande procession au cœur de la ville, de la Sainte-Coiffe, et c'était l'occasion pas seulement de donner à voir la Sainte-Coiffe ou d'exposer la Sainte-Coiffe à la vénération des fidèles ou des badauds, mais aussi de découvrir la ville. Racontez-nous la manière dont a été conçue cette procession qui a valu, entre autres, un article dans le journal La Croix, le renouveau de la piété populaire, manière d'embarquer pas seulement les chrétiens, mais tout le monde.
Oui, c'était vraiment un événement intéressant parce que, bien sûr, il y avait une tradition ancienne de procession de la Sainte-Coiffe et de piété. Donc, là, ça, on s'inscrit dans quelque chose qui remonte très loin. Et on a souhaité bâtir le déroulement de la procession en lien avec les services du patrimoine de la ville. Donc il y a eu effectivement un texte qui a été rédigé dans lequel on alternait des commentaires historiques sur les lieux devant lesquels passait la Sainte-Coiffe.
J'ai cru comprendre même voilà. Qu'il y avait tellement de belles choses à voir qu'il a fallu un moment raccourcir le
peu,
script
voilà,
et la procession.
Dans ce qui était prévu initialement.
Vous avez vu que je vous fais de la pub. Hein, c'est...
Oui, oui. Mais, et puis, donc, à chaque fois, il y avait, donc, ça débouchait sur une intention de prière et bon, alterné avec des chants. Et on essaie de faire en sorte que les gens puissent participer en répétant des petits refrains ou des invocations. Et ce qui était très frappant, c'est que les gens écoutaient avec attention. Moi, j'ai senti beaucoup de respect, alors qu'il y avait vraiment un peuple très varié, où je pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas l'habitude de prier, mais qui étaient là par, je ne sais pas, par curiosité, par intérêt, par goût de participer aussi à un événement qui remonte loin. Et
ça a réveillé des souvenirs aussi, peut-être. Enfin, vous direz, il n'y avait pas eu de procession depuis 1940. Donc
oui, c'est ça. Donc peut-être, je sais pas. Personne ne m'a dit. J'ai vécu celle de 1940 et je suis heureux de voir celle-là. Mais peut-être. Mais en tout cas, ça rappelle quand même. Ça permet de s'inscrire non seulement, si vous voulez, dans le patrimoine en regardant des vieilles pierres et des vieilles maisons et des lieux symboliques, mais dans une démarche qui vient de nos ancêtres, qui vient de plus loin, qui vient de notre histoire, qui vient de nos racines. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, de faire mémoire de choses importantes, de ce qu'a vécu le peuple.
Et ça, la dévotion populaire, Monseigneur Laurent Camiade, je redis le titre de cet article dans le journal La Croix, Le renouveau de la piété populaire, c'était en août dernier, le 11 août, donc en plein été, La Croix publiait ça, faisait écho aussi au documentaire Lourdes, là, qui a connu un succès retentissant, on en a pas mal parlé à cette antenne. Un frère, Franck Dubois, prédicateur dominicain du pèlerinage du Rosaire, disait « Cette piété populaire, c'est un cri vers Dieu ». Est-ce là votre analyse ?
Je pense que pour un certain nombre de gens, c'est clairement un cri vers Dieu. C'est sûr que dans la piété populaire, il y a la recherche d'une rencontre. On sort de soi. On sort de simplement sa recherche, sa quête spirituelle individuelle, pour entrer dans quelque chose de plus large. On rentre dans la piété des autres, dans quelque chose qui est de l'ordre d'une tradition. Et même pour l'évêque, même pour les prêtres qui ont évidemment la vocation d'accompagner, de conduire les gens vers Dieu, la piété populaire les précède, quoi. Elle nous précède, on n'est pas, on ne l'a pas inventée, on est obligé d'être d'abord à l'écoute de cet élan spontané qui peut être effectivement directement déjà clairement un cri vers Dieu ou qui en prend un peu le chemin, mais qui a cette particularité que on sort de l'individualisme même spirituel, c'est-à-dire qu'on cherche à entrer dans les pas d'autres personnes et à aller à la rencontre de réalités objectives. Alors l'objet qui est la Sainte Coiffe favorise cette dimension un peu objective. On cherche quelque chose de réel, enfin en même temps on crie vers Dieu, mais on cherche quelque chose qui nous dépasse, qui est à l'extérieur de nous-mêmes. Voilà, c'est cet élan et cette sortie de soi, je pense, qui caractérise la piété populaire. Et évidemment, la relecture chrétienne que l'on en fait, c'est que c'est aussi l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans le cœur des gens et qui nous y précède et que nous avons à discerner et nous essayons d'accompagner cette réalité-là.
Donc 30 000 personnes, je le disais au début de l'émission, sont passées au long de cette année. Et encore, je crois que les 30 000, c'est que ceux qui à un moment ou un autre ont franchi les portes de la cathédrale. Donc on peut imaginer que c'est peut-être davantage. J'aimerais qu'on parle de l'avenir. Il y a des villes en France qui sont des villes sanctuaires. Il y a même une association des villes sanctuaires en France. Il y en a 18. Il y a une réalité aussi en France qui est le tourisme religieux. Alors on peut regarder le tourisme religieux sous deux volets. Son aspect économique, c'est près de 10 milliards d'euros, semble-t-il. On sait qu'il y a beaucoup de touristes en France. Mais aussi voir un petit peu ce qui se cache ou ce que manifeste ce tourisme. C'est semble-t-il 44% des touristes en France qui, à un moment ou à un autre, sont intéressés par une forme de tourisme religieux. Sylvain Gignet, vous qui êtes là pour représenter un petit peu les trois clés que sont donc la société civile, l'État et la mairie, est-ce que ces trois clés sont sensibles à cette réalité, à ce tourisme religieux, et si oui, pourquoi ?
Alors les trois clés sont sensibles de toute façon au tourisme spirituel, au tourisme religieux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, la cathédrale fait partie de Cahors. Donc certes, comme vous disiez, les personnes sont intéressées par les cathédrales, alors sur plusieurs aspects, soit patrimonial, soit par curiosité de ce qui se trouve à l'intérieur, soit pour pratiquer une foi. Et Cahors a, entre guillemets, la chance de posséder une cathédrale classée à l'UNESCO et qui possède à l'intérieur donc la relique de la Sainte Coiffe. Donc tout l'enjeu qui a été d'ailleurs le 900e aussi, qui est de mettre autour de la table toutes les forces en présence, publiques ou diocésaines, eh bien ont débouché sur une réflexion commune, c'est comment faire rayonner Cahors au niveau spirituel dans le tourisme. Et c'est pour cela qu'en fait, en lien entre l'office de tourisme et donc la ville, les services du patrimoine de la ville de Cahors et le diocèse de Cahors, eh bien il y a la volonté de développer ça à travers notamment en se rapprochant des différents diocèses du Lot, par exemple avec des travaux en commun avec Rocamadour sur des pèlerinages potentiels, donc aussi bien au niveau spirituel que patrimonial, puisque quand on vient découvrir un lieu pour sa foi, on vient également rayonner sur le territoire.
Sylvain Gignet, est-ce qu'il y a, alors vous avez pas, je vous piège, réfléchit-on à postuler pour faire partie des villes sanctuaires en France ? Est-ce que vous avez un moment entendu ça dans des bruits de couloirs ?
Plus qu'entendu, puisque c'est même une volonté depuis longtemps, mais c'était d'abord important de poser les bases, c'est-à-dire de mettre autour de la table et le diocèse et les offices de tourisme pour savoir voilà, comment on travaille en commun, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et donc, c'était tellement une évidence de travailler ensemble, puisque simplement, toutes les personnes sont de bonne volonté et il y a vraiment quelque chose à faire. Et bien sûr, la volonté, que ce soit de l'office de tourisme, et je parle au nom de la petite diocèse, bien sûr, mais c'est de tenter de rallier le réseau des villes sanctuaires pour faire rayonner, toujours pareil, Cahors, sa cathédrale, son patrimoine, sa spiritualité. Bref, donner à Cahors sa vraie place au niveau du tourisme spirituel, la place qu'elle mérite.
Alors, il y a d'autres villes, on ne peut pas tous les citer, puisqu'il y a donc 18 sites, Lourdes, le Mont-Saint-Michel, Chartres, Lisieux, Vézelay, donc peut-être demain Cahors. Il faut rappeler, donc, c'est donc près de 40 millions de touristes en France qui seraient intéressés par on va dire un aspect spirituel ou religieux. Monseigneur Laurent Camiade, vous dans le diocèse avez quand même l'habitude et c'est très particulier d'avoir le sanctuaire de Rocamadour où vous voyez défiler justement tout au long de l'année ce tourisme là. Comment l'Église se dépatouille, pour être trivial, avec cette réalité? Les gens viennent-ils pour les pierres et viennent-ils vraiment avec d'autres questions, et que fait-on pour les aider à formuler ces questions?
Les gens viennent avec ce qu'ils sont et avec leur centre d'intérêt. Ce que nous essayons d'offrir, un peu le sens de... parce que les vieilles pierres, elles n'ont pas été mises quand elles ont été empilées et qu'on a construit ces bâtiments. Ça n'a pas été fait sans une intention bien précise. Et donc, nous avons à rendre compte de cette intention, ce que nous pouvons faire, puisque dans ces lieux, qui sont comme la basilique de Rocamadour ou la chapelle de la Vierge ou la cathédrale de Cahors, on vit toujours, on fait vivre toujours dans ces lieux ce pourquoi ces bâtiments ont été construits. Donc, et nous avons donc à rendre compte de ce que l'on y vit, puisque c'est dans la continuité, dans la fidélité à l'intention de ceux qui l'ont bâti.
Et on y arrive? Est-ce que les visiteurs arrivent à se transformer en pèlerins?
Dans la mesure où on respecte chaque personne, les gens peuvent recevoir, entendre ce dont nous témoignons. Après, est-ce qu'ils se transforment en pèlerins? Ça, c'est leur liberté qui s'engage. Nous en sommes heureux. Mais il y a quand même un certain nombre qui le font. On voit beaucoup de gens, notamment à Rocamadour, mais on l'a vu aussi à Cahors, devant la Sainte Coiffe notamment, mais aussi dans la cathédrale avec le parcours jubilaire dont on va parler tout à l'heure. Beaucoup de gens entrent dans la démarche qui leur est proposée. Après, ils sont tout à fait libres, bien sûr, d'y entrer ou pas. Néanmoins, je pense qu'à tous, nous avons à rendre compte de cette réalité, de ce que nous vivons dans ces lieux et qui est dans la fidélité. Sinon, ce sont des lieux vides qui ont perdu leur sens. Et c'est, si la cathédrale ou le sanctuaire de Rocamadour devenait un musée ou simplement un lieu que l'on visite, mais enfin, comme on vient visiter un dolmen ou des lieux qui ne sont plus du tout qui n'ont plus du tout l'usage pour lesquels ils ont été érigés, on comprend pas, on n'en déchiffre pas le sens. Voilà, donc nous avons la chance de pouvoir rendre ce service, d'essayer de rendre compte de ce que nous vivons et qui, je crois, est en fidélité profonde avec l'intention des bâtisseurs.
Voilà, donc un axe peut-être lourd de Cahors, Rocamadour se dessine, et peut-être demain, donc le dernier né de l'association des villes sanctuaires en France sera Cahors. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver. On va retrouver deux autres de nos invités pour nous parler des parcours jubilaires et de la fameuse garde d'honneur, et puis surtout entendre au moins deux témoignages, essayer de toucher du doigt ce qui a été vécu au long de ce jubilé.
Oh,
Radio Présence à Moissac 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cahors, à l'heure de la Sainte Coiffe, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, il y en a, ça arrive, qui prennent en cours de route autour du plateau. Monseigneur Laurent Camiade, évêque du diocèse, Marie-Madeleine Ray pour, entre autres, la commission diocésaine d'art sacré, Sylvain Gignier, coordinateur général du 900e anniversaire de la cathédrale de Cahors, donc pour ce grand jubilé dont on parle, et l'exposition donc de la Sainte Coiffe, et Marika Wedek, responsable de la garde d'honneur de la Sainte Coiffe, et Nathalie Heller, coordinatrice des équipes du parcours jubilaire. On va commencer avec vous, Nathalie, en cette fin d'émission. Donc, a été proposé au long de cette presque année jubilaire, 9 mois, un parcours. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous vous proposiez au badaud qui poussait la porte de la cathédrale?
Alors, en effet, nous proposions ce qui s'appelle le parcours jubilaire de la résurrection à tous ceux qui souhaitaient y participer, que ce soit des pèlerins, de simples passants, des touristes. Il s'agissait d'une visite spirituelle de la cathédrale de Cahors qui reprenait les 7 étapes utilisées par les services du patrimoine pour la visite historique, mais sur le versant spirituel, c'est-à-dire en revenant aux fondements de la foi catholique et en proposant une déambulation avec une méditation guidée qui pouvait, si les gens le souhaitaient, aboutir sur la rédaction d'une petite prière que les gens pouvaient déposer au pied de la Sainte Coiffe à la fin du parcours.
Donc c'était un parcours qui était soit accompagné, soit on donnait un petit livret et les gens vivaient ça
Il a été décliné sous 3 formes. La version accompagnée, le parcours guidé, donc qui s'adressait à des groupes. Également la version individuelle avec un autre support. Et il y a également eu une version destinée aux enfants.
Alors j'aimerais que vous nous disiez un petit peu, essayer de piocher au long de cette année quelques fioretti qui peuvent aider à comprendre ce qui s'est vécu. Vous nous parlez des équipes juste après. Est-ce que vous avez des souvenirs précis de gens comme ça qui sont rentrés dans la cathédrale et, comme je le disais tout à l'heure en taquinant un peu Monseigneur Laurent Camiade, qui sont passés de visiteurs à la pèlerin? Est-ce que parfois ça se voyait?
Alors oui. Pour moi, ça a été particulièrement marquant lors de la série de parcours jubilaires nocturnes que nous avons animé début juillet, donc au départ dans le cadre de la Nuit des Églises. Et nous laissions les portes de la cathédrale ouvertes dans
donc
la soirée.
La Nuit des Églises, en deux mots, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un temps qui est proposé par l'Église de France où on peut aller visiter les églises la nuit.
Dans les églises la nuit, donc en été. Et nous laissions les portes de la cathédrale ouvertes, notamment le portail nord, par lequel commençait notre parcours spirituel. Et nous avons eu l'impression que la cathédrale appelait les personnes de l'extérieur. Et nous avons des personnes très diverses, que ce soit en famille, des touristes, des cadurciens même, qui, se sentant appelés par la cathédrale, entraient et suivaient tout ou partie du parcours jubilaire.
Vous aviez mis une musique lancinante comme ça à travers les villes.
Nous n'avions pas mis de musique.
Non, même pas en plus.
Voilà, en plus c'est bon, ce parcours étant une méditation, c'est quand même assez, assez recueilli. Mais les gens venaient.
Alors vous aviez l'exemple d'une Parisienne.
Voilà, d'une Parisienne qui est arrivée, qui est rentrée dans la cathédrale, qui a suivi le parcours et qui était totalement subjuguée et transformée. Elle est venue me voir à la fin du parcours en me disant qu'elle avait vraiment vécu une expérience de foi très intense. Et elle est d'ailleurs revenue le lendemain. Je crois qu'elle a même intégré une équipe d'accueil ponctuellement.
Si vous deviez parler à la première personne, Nathalie Heller, vous me disiez donc que vous aviez la foi avant ce jubilé, mais qu'il y a quelque chose quand même qui a changé, qui s'est fortifié. Dites-nous ce que ce jubilé aura laissé comme trace dans le cœur de la croyante que vous êtes.
Alors effectivement, j'avais la foi avant, je suis une paroissienne engagée, mais j'ai vécu une expérience très forte au moment où le rédacteur du livret du parcours, Benoît Coiffé, m'a contactée pour me demander de l'aide. Pour que je puisse coordonner cette équipe et former cette équipe, je me suis réellement sentie comme la Samaritaine au bord de son puits. Ça a été quelque chose vraiment de très très fort. J'ai même hésité à un moment, puisque cette mission me paraissait vraiment de très grande ampleur.
Donc vous avez accompagné toutes les équipes,
voilà,
qui proposaient ce parcours jubilaire.
La formation des personnes, et ça a été, j'ai envie de dire magique, mais en fait nous avons été portés par quelque chose qui nous dépassait réellement. Et cela a nourri ma foi tout au long du jubilé et encore actuellement.
Je
pense que ce n'est pas fini d'ailleurs.
Vous me disiez aussi que voilà, ça vous a persuadé encore plus de l'importance de partager la bonne nouvelle qui est venue apporter le Christ et donc la bonne nouvelle de l'Évangile et la bonne nouvelle de sa résurrection. Et Dieu sait si parfois il faut du temps pour se convaincre de cette réalité. On va finir avec vous, Marika Wedek. Justement, je vous poserai une petite question en introduction. Cette relique, on a compris que l'enjeu n'est pas de savoir si elle est vraie ou pas, mais quand même, si le pape François la présente comme telle, pour vous, c'est une relique de la passion du Christ.
Du moins, c'est un symbole. C'est un symbole de la résurrection du Christ, et c'est en cela que son ostension est ouverte à tout chrétien, même, je dirais, à toute personne qui peut se trouver en état d'esprit critique vis-à-vis de la foi, vis-à-vis des évangiles. Et c'est un bon moyen de se poser des questions. Ça peut être un guide dans un chemin de questionnement.
Voilà. Bravo, ça peut être au moins un point d'interrogation important. Alors vous êtes responsable de la garde d'honneur. Pour ceux qui ont suivi ou qui auraient lu les articles, donc c'est des personnes qui ont des grands habits blancs, si je ne me
trompe.
Rouge, pardon, vous voyez, j'ai bien fait de venir. cette garde d'honneur, qu'est-ce que c'est ? Semble-t-il, on s'engage, alors je vais lire des extraits, hein, il y a une charte pour la garde d'honneur de la Sainte Coiffe, et entre autres, cette charte finit par « Je m'engage enfin à contempler la foi des fidèles et à me disposer à ce que la mienne grandisse ». Qu'est-ce que c'est que cette garde, Marika Wedek ?
Alors, concrètement, au départ, c'était pour compléter le dispositif de sécurité. Ça, c'est l'aspect, on va dire, vraiment...
Ça commence souvent par des choses prosaïques.
Voilà, très prosaïques. Et de toute façon, dès le départ, c'était aussi pour accompagner les fidèles, les pèlerins, les visiteurs, les paroissiens, les cadurciens, toute personne qui pouvait souhaiter approcher la Sainte Coiffe pour guider les personnes dans la vénération, être présent, répondre aux questions, soit questions effectivement historiques.
Je m'engage à accueillir tout visiteur avec bienveillance sans toutefois entamer de discussions trop longues, dit aussi la charte, faire respecter le caractère sacré du cœur. Mais pour les personnes qui en font, quand vous êtes partie,
oui.
Quel est le but et pourquoi ont-elles choisi de faire partie de cette garde d'honneur ?
Alors, le but, je ne veux pas savoir exactement ce qui motivait chacun, parce qu'évidemment les motivations, vous comprenez bien, étaient très variées, puisque nous avons pu, nous à notre tour, parce que moi j'ai collaboré avec Alexandra de Nantes, hein, qui au départ était la coordinatrice principale.
Alors ne donnez pas les recettes de cuisine.
D'accord.
Dites-nous, voilà, qu'est-ce que les personnes étaient censées vivre au
cœur
de la garde d'honneur ?
Alors, censées vivre, ça ne m'appartient pas. Je crois que ça n'appartient
qu'au
Seigneur.
À quoi vous les invitez ?
Mais ce à quoi on pouvait les inviter, c'était effectivement de se mettre à l'écoute du public qu'ils allaient recevoir et de se disposer à glaner toutes les grâces, tout ce qui pouvait passer sous leurs yeux, dans leur cœur. Et effectivement, on a eu des témoignages très 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 émouvants, puisque nous avons
Est-ce que vous pouvez donner des exemples peut-être et finir par le vôtre aussi?
Oui, alors des personnes qui effectivement ont ont senti une différence entre le fait d'avoir la foi et le fait de contempler la foi des autres et qui ont senti la leur grandir, en fait. Cette charte, on l'a écrite de manière... on l'a écrite a priori, et en définitive, c'est quand même ce qui s'est passé pour beaucoup de membres de la garde.
Et voilà. Pour vous ?
Et pour moi, ça a été double grâce, parce que effectivement, j'ai pu vivre cela quand j'ai pu assurer le service de garde, mais j'ai pu voir aussi la solidarité qui régnait entre les personnes, entre les membres de cette garde, voir la diversité, voir l'union qui se faisait malgré les diversités de sensibilité, hein, on dira, et le dévouement et cette capacité voilà, à être disponible malgré les difficultés vécues. Voilà.
On va finir en disant et en invitant donc largement les auditeurs à vous rejoindre donc pour le Tridium, donc le 6, 7, 8 décembre, cette fin de semaine, trois événements importants. Le 6, donc la Sainte Coiffe sera installée dans la chapelle d'Aix. Voilà, elle sera proposée donc à la vénération des fidèles au-delà du jubilé. Le 7, donc un pèlerinage au Mont Saint-Cyr avec donc une bénédiction de la ville. Et le 8 décembre, donc messe à la cathédrale, messe donc de l'Immaculée Conception, à l'issue de laquelle donc il y aura un repas ouvert à tout le monde et particulièrement peut-être à tous ceux qui ont le plus besoin d'être entourés. Monseigneur Laurent Camiade, le mot de la fin. L'histoire de la Sainte Coiffe ne se finit pas avec ce jubilé. Quelle grande invitation vous auriez envie de lancer à nos auditeurs pour finir ?
Grande invitation. Moi d'abord, je suis dans la reconnaissance pour toutes les personnes qui se sont investies dans l'accueil et dans l'accompagnement de ce jubilé, parce qu'il y a eu, enfin, on peut dire même, ça a été beaucoup beaucoup porté par des laïcs et par des chrétiens, des bénévoles qui ont été vraiment d'un dévouement exceptionnel. Mon invitation, c'est de ne pas briser cet élan, puisque on va terminer ce jubilé. Il faut un anniversaire, ça a un début et une fin. Mais voilà, que tout ce qui a été donné, tous les élans, le dévouement, l'engagement des uns et des autres puissent continuer d'une autre manière.
Alors ça, c'est aux gens du diocèse, mais comme on est diffusé bien largement au-delà du diocèse, quelle invitation vous lancez aux auditeurs?
Après, plus largement,
qui ne sont
bien
pas
sûr,
vos fidèles.
C'est de garder aussi chacun là où il est, le souffle spirituel, peut-être de venir un jour aussi à Cahors pour ceux qui ne sont jamais venus. Il y aura d'autres dates où on pourra faire quelques petites ostensions de la Sainte Coiffe, pas aussi prolongées que ce que nous vivons là, et en tout cas d'entrer dans l'espérance, dans la foi en la résurrection de Jésus, à laquelle l'Église ne cesse de nous appeler tous.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour nous parler de ce jubilé, et merci pour cette invitation, Monseigneur, lancée à chacun, donc les 6, 7 décembre et 8 décembre et au-delà. Pour toute information, le 900e, c'est un site internet donc sur les 900 ans, et puis vous tapez Sainte Coiffe sur votre moteur de recherche et vous trouverez un site dédié pour en savoir plus sur cette Sainte Coiffe. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry avec Florian Ose. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.